C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin, évidemment, par la situation à Gaza. Il y a quand même beaucoup de nouvelles. Pour la première fois, les Nations Unies utilisent le mot « famine » pour décrire ce que vivent les Gazaouis. Et au rythme où vont les choses, le terme « famine », parce qu'il y a des critères pour l'établir, on pense que dès les prochains jours, les prochaines semaines, ce sera malheureusement le cas. Et on donne des exemples d'enfants, des bébés qui sont nés depuis le début de la guerre, qui sont incapables d'avoir accès à des préparations, à de la nourriture, à de l'eau, des enfants qui ne mangent pas pendant une journée, deux jours, trois jours. Les parents tentent désespérément de vendre certains de leurs biens pour être capables d'avoir un peu d'argent, mais même à ça, malgré le discours officiel, l'aide alimentaire, l'aide humanitaire demeure extrêmement compliquée. On ne peut même pas avoir assez d'eau, par exemple, pour faire de l'agriculture de base, pour être capable de produire un certain nombre d'aliments. Donc, c'est une réalité. Et vous avez le discours du premier ministre Netanyahou qui dit « On va continuer de frapper tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint l'objectif qui est la destruction du Hamas. » Et il l'a encore répété dans les derniers jours. On est en période de Pâques juive. Il a profité de l'occasion pour renouveler ce message. Donc, des opérations qui continuent, et notamment vers Rafah. Et puis, vous avez également ces manifestations de plus en plus nombreuses. Il y en a au Canada, mais on a vu hier des douzaines d'arrestations à l'université Yale. Vous avez également l'université de New York. À travers les campus, c'est pas seulement à New York, c'est vrai dans les grandes villes américaines et les grandes universités où des protestations concernant le sort des Palestiniens. Et ça risque d'avoir un impact sur l'élection présidentielle. Des gens qui reprochent à l'administration Biden de continuer de soutenir Israël malgré une pression exercée. La stratégie démocrate, la stratégie du président, c'est de donner de l'argent, fournir des armes, puis en même temps s'assurer que Israël demeure, disons, encadré, assez de pression pour ne pas qu'il y ait une démesure dans, par exemple, on l'a vu, les frappes en Iran dans les derniers jours. Alors, et on pense d'ailleurs que sur les campus, on a, disons, une espèce de profil assez clair de manifestation. Dans certains cas, ça peut virer à la violence, mais surtout des manifestations de haine, d'antisémitisme. C'est pas strictement sur Israël, ça déborde. C'est contre les Juifs en général et ça carbure cette tension. Si vous voyez les images, là, ça parle assez clairement. Et puis, un mot sur l'Ukraine pour vous dire aussi que c'est une guerre qui s'enlise. Et en Russie, on compte maintenant faire du recrutement chez des prisonniers. Donc, dans l'armée pour aller combattre parce qu'on n'a pas assez de volontaires puis on n'est pas capable d'avoir assez de combattants puis il y a des périodes de rotation qui sont nécessaires. Donc, on pourrait prendre des gens qui sont en prison et les envoyer se battre au front. Et puis, à New York, première véritable journée du procès de Donald Trump, alors qu'on a 34 accusations, les procureurs ont présenté leurs arguments et c'est quand même assez simple. Tout ça tourne autour d'un montant d'argent qui a été versé à une vedette porno qui menaçait de tout dévoiler de sa relation intime avec Trump. C'était à la veille, donc c'était en période électorale. Et finalement, c'est l'avocat personnel de Trump qui a versé l'argent. Puis probablement qu'on a pris ça dans la caisse électorale pour ne falsifier des documents. C'est en tout cas ce que prétend la poursuite. Dans le cas de M. Trump, sa défense, c'est de dire, écoutez, c'est une erreur administrative. J'ai pas à me prononcer sur le type de relation que j'ai, mais d'abord, ça vous regarde pas. Et tout ça, il le répète encore, c'est une opération politique contre lui. Et vous allez avoir également l'éditeur propriétaire du National Enquirer qui va raconter qu'il a acheté des histoires pour les enterrer, pour éviter de nuire à M. Trump. Donc, comment tout ça a été payé? En résumé, on ne parle pas des pires accusations criminelles, mais ça demeure des accusations criminelles contre un ancien président. Et quand vous regardez ça avec un petit pas de recul, vous vous dites, s'il est reconnu coupable, il va aller en appel et probablement que tout ça va s'étirer bien avant. Enfin, en fait, on n'aura pas de réponse avant les élections. Par contre, s'il est acquitté, ça va le catapulter dans les sondages à la hauteur et il va se promener en disant, je vous l'avais dit, j'ai rien fait de mal. C'est encore une fois une forme d'acharnement des démocrates et qui ne lâche jamais le morceau. Chez nous, maintenant, des chiffres assez troublants. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, beaucoup d'enseignants. C'est la presse qui nous dit ce matin qu'on se retrouve avec pratiquement 10 % des élèves qui sont absents en classe. Et ça, c'est des données là, du début d'avril à travers le Québec. Et ça nous rappelle exactement ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Avant la pandémie, une proportion dite normale d'élèves absents, c'est de 5 à 7 %. Bon, il y a des gens qui sont absents pour des raisons maladies, il y en a qui voyagent avec leurs parents, il y a toutes sortes d'explications, là. Mais disons que 5 à 7 %, c'est ce qu'on voit dans les écoles primaires et secondaires publiques. On n'est pas loin de 10 %. Et là, je lis les explications, ou en tout cas les tentatives d'explications. Ce qu'on remarque, c'est que, bon, il y a toujours le classique, là, examen chez le médecin, examen. Des gens qui sont malades, des enfants qui peuvent pas aller à l'école, puis les raisons sont tout à fait légitimes. Mais il y en a d'autres qui veulent pas aller à l'école. Alors là, vous pouvez faire un certain nombre de catégories. Des enfants victimes d'intimidation. Des enfants, puis on a eu des cas ici à l'antenne, qui ont besoin d'un encadrement que l'école n'est pas capable de fournir. Et l'école dit aux parents, gardez votre enfant à la maison pendant qu'on essaie de vous trouver des ressources. Il y en a de ça. Puis de l'intimidation aussi, puis des enfants qui ont peur d'aller à l'école. Mais il y a aussi des enfants qui veulent pas aller à l'école. Et là, dans ceux et celles qui témoignent, là, qui œuvrent dans le monde scolaire, là, vous avez des citations du genre « L'école est en compétition avec les activités, les amis, les jeux vidéo, des jeunes qui sont laissés sans surveillance à la maison » par des parents qui partent travailler. Puis l'image que j'ai, puis je me rappelle d'un courriel reçu d'un enseignant, parce qu'il y avait un des élèves de sa classe qui était pratiquement jamais là, puis qui comprenait pas pourquoi. Puis il avait convoqué les parents, et les parents disaient qu'ils s'engueulaient avec l'ado tous les matins, parce que l'ado voulait pas aller à l'école. Puis eux devaient finalement quitter pour le travail, puis ils disaient, je sais plus quoi faire avec, il veut pas y aller. Et il y en a qui sont là 3 jours semaine, il y en a qui ont l'horaire scolaire de 4 jours semaine. Et là, tu dis, mais ça n'a pas de bon sens. Puis il y en a, je sais, là, je comprends que ça peut être complexe pour certains enfants puis certains ados d'aller à l'école. Mais il y en a d'autres, visiblement, qui préfèrent passer la journée devant des écrans, jouer à des jeux vidéo, que de se retrouver à l'école. On va y revenir quand même là-dessus ce matin. Maintenant, étude publiée hier par l'Office de la langue française concernant l'accueil en français dans les commerces de Montréal. Le nombre de plaintes augmente, de gens qui sont incapables de se faire servir en français. Mais là, il faut mettre un certain nombre de nuances dans ça. Que dit la nouvelle étude, dans le fond? C'est que quand vous arriviez dans un commerce en 2010 à Montréal, dans 84 % des cas, vous étiez accueilli en français. C'était la première langue utilisée dans l'approche de la personne de cet établissement commercial. C'est passé en 2023 à 71%. C'est une baisse importante. Ce qu'on note, c'est que le fameux bonjour hi est en progression, 8% en 2010, et là, c'est à peu près 12%. Pour ce qui est des commerces où on est accueilli strictement en anglais, ben, ça augmente aussi, mais là, on a des chiffres de 2017. De 12 à 17 puis ça n'a pas bougé beaucoup en 2023. La grande question, une fois que la première barrière est traversée, est-ce qu'on est capable d'être servi en français? La réponse, c'est oui, parce que dans 90 % des cas, il y a quelqu'un qui est capable dans l'établissement de vous parler en français. Donc, vous pouvez être accueilli en anglais, mais rapidement, l'employé va passer au français. Et vous avez seulement moins de 3 % des cas où les gens disent avoir été incapables d'obtenir un service en français. Qu'est-ce que ça montre? Ben, ça montre que le visage de Montréal évolue. C'est qu'il y a un exode de beaucoup de francophones vers les banlieues pour des raisons économiques, parce que le loyer est rare et cher à Montréal. Il y a une crise du logement partout au Québec, mais à Montréal, on le sait tous, c'est particulièrement cher. Il y a une réalité démographique, population vieillissante. Et là, on se tourne vers l'immigration. Et Montréal explique sa croissance de population par le nombre de gens venant de l'extérieur. Et une simple tournée rapide à Montréal d'interaction avec des chauffeurs qui parlent, par exemple, de Uber ou de certains chauffeurs de taxi qui parlent pratiquement pas français. Si vous commandez les livreurs, qui sont souvent des demandeurs d'asile, qui ont un statut très précaire, qui parlent pas français, des gens qui arrivent et qui doivent combiner deux, trois petits boulots pour être capables de gagner leur vie, qui n'ont pas le temps d'aller suivre les cours de français, c'est souvent, on le sait, la deuxième génération. Et cette deuxième génération qui est passée par l'école, ben, c'est de voir des personnes qui sont peut-être plus à l'aise en anglais, qui vivent davantage en anglais, c'est une réalité, qui sont pas bien, bien attirées par la communauté francophone, mais qui savent et qui connaissent le français et qui peuvent l'utiliser. Et j'ai dit à tout le monde en parle avec raison qu'un des éléments qui me rend le plus fier de l'émission, c'est de me faire accrocher puis de me faire dire, puis encore dans les courriels hier, il y en a qui me disaient ça, je suis arrivé de tel pays, je me suis installé à Montréal, puis j'ai découvert non seulement la langue française à la radio, mais aussi cette réalité du Québec. Donc, des immigrants grecs, des immigrants italiens, des immigrants venant du Chili, des gens qui, il y a des années, se sont installés à Montréal, et leurs enfants parlent français. Il y a ça aussi qu'il faut jamais mettre de côté. Mais c'est indéniable que le portrait de l'immigration et du vieillissement de la population vient affaiblir le français. Premier constat, le ministre responsable Jean-François Robert sera avec nous. La presse nous dit qu'il va également annoncer bientôt un tableau de bord. Là. C'est très tendance dans les gouvernements. Tableau de bord pour savoir exactement l'état de santé du français. Et aussi, il y a le Journal de Montréal qui nous rapporte des cas, appelons ça, où des jeunes dans les écoles françaises parlent en anglais. Puis là, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, dit « Faudrait peut-être pénaliser. » Mais là, comment tu gères ça dans une école française, des ados qui méprisent le français ou que ça les intéresse pas, puis sont plus à l'aise de parler en anglais? Pas comment le prof peut gérer ça. Et là, le ministre va demander, semble-t-il, à des experts de réfléchir sur la question. Je reviens sur cette saga incroyable de gens qui, d'abord, ont la douleur de perdre un être cher et tout ce micmac avec le consulat canadien et les autorités cubaines. Donc, vous avez vu hier partout, et on a reçu les membres de cette famille éprouvée, un homme qui meurt, il est à Cuba, il se baigne, il est sur la plage avec sa fille, il décède. Et d'abord, on le laisse pendant des heures sur une chaise avec une couverture parce qu'on n'est pas capable de prendre le corps de façon décente et d'aller, par exemple, dans une morgue, dans l'attente des procédures. Ça, c'est la première gifle, si on veut. La deuxième, c'est que vous découvrez que le corps qu'on vous envoie et le transport, vous avez payé 10 000 $. C'est une recommandation du consulat canadien. Et quand vous ouvrez le cercueil, vous constatez que c'est pas votre père. Puis ce matin, on a un autre cas. Cette fois, c'est la gestion des cendres. Un homme qui est décédé à Cuba, 27 février, avec sa conjointe. Et ça a pris pratiquement un mois avant de recevoir les cendres. Puis il y a eu un mélange de cendres puis de documents. Puis là, vous retrouvez les cendres de votre père. Puis finalement, c'est pas ça qu'on a, là. C'est, semble-t-il, quelqu'un du Panama. Et encore là, ça implique le consulat canadien à Cuba. Nous avons reçu ce que j'appelle les messages insignifiants de la machine bureaucratique. Beaucoup vous diront que le Canada est probablement un des pires pays en termes d'efficacité et de qualité de service à ses citoyens qui sont dans le trouble à travers le monde. Fabrice de Pierrebourg dit souvent, lui qui voyage dans des zones troubles, c'est préférable souvent d'aller vers la France ou d'autres pays que le Canada parce que c'est un service mauvais, mauvais et mauvais. Ils nous ont envoyé une réponse en disant qu'Affaires mondiales Canada était au courant du décès d'un citoyen canadien à Cuba. Nos pensées vont à la famille, blablabla. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas parler. Et qu'il s'occupe du dossier. Alors, on s'est bien rendu compte qu'hier, il ne s'occupe pas du dossier. C'est pas à des familles éprouvées de se battre pour rapatrier des corps. Un consulat, ça sert à ça. Et là, quand tu réfères une entreprise, puis que cette entreprise ne fait pas le travail, il y a quelque chose d'insultant, puis de profondément blessant. Et c'est à la ministre Mélanie Joly de donner un coup de pied dans sa machine pour que le travail se fasse de façon un peu plus humaine. Rapidement, dans les autres nouvelles ce matin, le gouvernement fédéral et l'Ontario sont sur le point d'annoncer un méga projet électrique de Honda. Le Québec a regardé ça, mais de toute évidence, Honda s'est montré extrêmement gourmand. Et là, on parle de milliards et de milliards. Il y a des sources dans le Globe and Mail qui disent si vous pensez que l'Ontario et le fédéral ont mis de l'argent dans Volkswagen, vous n'avez rien vu dans l'injection de fonds publics pour la compagnie Honda. Donc, des éléments, des pièces de voiture, il faut refaire complètement une usine. Alors, probablement que ce sera annoncé dans les prochains jours. Et Québec n'a pas voulu s'embarquer avec, de toute évidence, une spirale des coûts de façon aussi spectaculaire. Il y a Gilbert Rozon qui fait une sortie. On avait reçu également une copie d'une lettre dans laquelle il dit en gros que les actionnaires de Juste pour rire sont responsables des problèmes financiers de cette débâcle. Dans la presse, vous avez quelques détails ce matin. Je le cite, « Je ne pouvais imaginer une catastrophe comme celle-là pour la simple et bonne raison que les entreprises disposaient de moyens financiers quasi illimités. » C'est pour moi inexplicable, après 40 ans, de voir ce fleuron tomber. Les gens vous diront que quand il s'est fait pointer dans le fameux mouvement MeToo, là, moi aussi, qu'on l'a pratiquement obligé de vendre, il n'y a pas eu le choix, il a décidé de vendre, mais quand même, il y avait une pression énorme. La valeur de l'entreprise s'est évidemment affaiblie. Et ça a été racheté. Puis là, après ça, je sais qu'il est en poursuite avec une partie de ceux qui l'ont racheté. Et en gros, ce qu'il dit, ils ont détruit mon entreprise. Puis là, on le sait, on est en train de voir comment les restants de Juste pour rire seront partagés par certains joueurs qui peuvent être intéressés. Et puis, je termine par cette grève à la Société des alcools du Québec qui est prévue pour cette semaine. Donc, on prévoit que demain et jeudi, on va exécuter. En tout cas, c'est l'intention. On va parler avec la présidente du syndicat tantôt. Donc, il y a tout l'enjeu du travail à temps partiel, puis il y a souvent, des conflits de travail à la Société des alcools. Bon, deux jours, c'est pas la fin du monde, on s'entend. Là. On fait bien des blagues, mais c'est pas si grave. Mais est-ce qu'il y aura escalade des moyens de pression? Et rappelons-nous, la dernière fois, il y avait eu des grèves surprises. Je veux juste dire aux syndiqués, si vous voulez garder la sympathie des gens quand vous faites des grèves, puis que les clients sont à l'intérieur des succursales, puis que vous décidez, ça m'est arrivé, là, un midi, un dimanche, de dire « OK, on débraye ». Pourriez-vous juste barrer les portes, pas faire entrer d'autres clients, mais au moins, ceux et celles qui sont dans dedans, laissez-les compléter leur transaction. Puis j'avais dit à la personne dans une succursale, « Là, j'ai pas le goût de retourner ça, tu moyen. » Puis il m'avait dit « Oui, oui, puis il y a deux, trois personnes. » Tu sais, il n'y a pas une foule. Je comprends les moyens de pression, mais ça fait en sorte que les gens peuvent être un peu plus sympathiques à votre cause. On va en reparler tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Je sais que vous avez tous et toutes été secoués par l'entrevue de hier matin au sujet de la mort d'un homme de Laval, qui est décédé à Cuba. Et on a envoyé au Canada la mauvaise dépouille mortelle. Plutôt que de retrouver leur père, c'est le corps d'un Russe qui s'est retrouvé ici. Et le consulat russe a pris les choses en main. Le corps a été retourné vers donc la Russie. Et je vais revenir sur le premier cas, parce qu'on en a un deuxième ce matin. Un autre cas où un homme est décédé à Cuba. Cette fois, c'est le 27 février, et ça a pris des semaines et des semaines avant de retrouver les cendres du disparu. Donc, le père est mort et finalement, la famille a dû affronter encore une fois la machine, la bureaucratie fédérale. Jennifer Trottier est avec nous. Son père est donc décédé à Cuba le 27 février dernier. Elle va nous parler un peu du parcours du combattant que elle et les membres de sa famille ont dû traverser. Madame Trottier, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Parlez-moi d'abord de votre père. Il était donc à Cuba et il est décédé là-bas.
Oui, en fait, moi, mon père vient de Vaudreuil-Dorion. Et chaque hiver, il allait à Cuba, toujours à Cayo Largo, avec sa femme. Il passait ses hivers là-bas. Là. Il partait en décembre, puis il revenait au mois de mars la plupart du temps. Et il habitait sur un resort, là, toujours le même. Et cette année, mon père est parti vers la piscine se baigner. Et sa conjointe était restée à la chambre. Et ils ont su quelques minutes plus tard qu'il était décédé.
Est-ce que vous savez de quelle façon il est décédé, les circonstances de son décès?
Non. C'est un des points qui était vraiment difficile, là, puis qui est encore difficile. On ne le sait pas, puisque mon père connaissait beaucoup le staff de l'hôtel et puis est allé se baigner dans une piscine qui venait d'être rénovée et il n'y avait pas beaucoup de témoins là-bas, puisque les chambres n'étaient pas ouvertes. Les repas n'étaient pas servis et il n'y avait pas de caméra, pas beaucoup de témoins. Mais on a su que la version a changé trois fois. Donc, au départ, on a appris qu'il était parti en vélo et que qu'il était tombé, qu'il s'était fracturé le crâne. Par la suite, on a su que non, c'était pas ça du tout, qu'il marchait vers la piscine et qu'il serait tombé. Et la troisième version, c'est qu'il avait nagé et qu'il était sorti de la piscine et que c'est là qu'il est arrivé l'accident. Mon père avait la tête, il avait une fracture là sur sa tête et ils ont parlé de crise du cœur là à ce moment-là. Et lorsqu'on a eu l'autopsie, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont révélé, mais sans même parler de la blessure à la tête. Donc, habituellement, dans une autopsie, quand on a des blessures, c'est indiqué, mais là, non, silence radio sur le fait qu'il y avait une blessure à la tête.
OK. Sa conjointe était donc à l'hôtel avec lui. On l'a informée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a pu faire, dans le fond?
Ben là, la première des choses qu'elle a fait, c'est qu'elle a paniqué. Elle était seule là-bas avec lui. Là, la nouvelle l'a un peu abasourdie. Et là, elle voulait aller le voir. Et puis, il refusait. Parce que c'est pas dans les coutumes des gens là-bas d'aller voir les personnes décédées. Mais elle croyait pas. Donc, elle voulait vraiment aller le voir. Et c'est une autre personne, une Québécoise, qui était à l'hôtel, qui a pris les choses en main, puis qui a insisté pour qu'elle puisse aller voir son conjoint. Et finalement, ils l'ont apporté au corps et puis elle a constaté là, le décès de mon père. Et ils l'ont installé dans une clinique à la Marina. Il était couché sur le sol dans un sac funéraire avec des bandages un peu placés de façon archaïque sur sa tête. Et puis, il était laissé à la chaleur là-bas là, environ de l'heure du midi jusqu'à 7 heures le soir avant qu'il transporte à la Havane en hélicoptère.
Bon, une fois rendu à La Havane, à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé?
On a un peu perdu le corps parce qu'il voulait que ma belle-mère embarque dans l'hélicoptère et suive le corps, mais rendu à La Havane, elle était laissée à elle-même seule dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une langue qu'elle ne parle pas. Elle a donc paniqué et un peu refusé d'aller là-bas. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé mon père là-bas, à La Havane, dans une morgue. Et elle, ils lui ont trouvé un vol de retour au Canada dès le lendemain matin, en lui disant « Ne vous inquiétez pas, votre mari va être sur le vol, on va faire l'autopsie, on va ramener le corps, puis il va être sur le vol avec vous. » Donc, ils ont laissé une heure pour faire ses bagages et puis elle est partie le lendemain matin là pour l'aéroport. Et une fois passé les douanes de Cuba vers le Canada, il lui a annoncé que mon père ne serait pas sur le vol. Donc là, il voulait plus partir parce que ça changeait les choses. Là, le fait qu'il rentrait pas au pays avec elle, mais il était trop tard. Ils ont refusé qu'elle retourne dans le pays, puis ils l'ont envoyé au Canada. Et là, on s'est retrouvé ici avec pas de papier, pas de passeport de mon père, pas d'acte de décès, pas de papier d'autopsie, aucun certificat là, d'embaumement ou d'incinération. On savait plus où est-ce qu'il était, on avait perdu sa trace.
Est-ce que le consulat ou l'ambassade, est-ce qu'il y a des gens du gouvernement fédéral en poste à Cuba qui ont pu vous aider, à qui vous avez pu parler?
Non, aucune aide. C'est aucune aide. En fait, c'est le salon funéraire qui a aidé ma belle-mère, les assurances. On savait plus où appeler. Moi, je voulais appeler pour prendre des nouvelles. Et comme dans l'histoire précédente, ils refusaient de parler à une autre personne que la conjointe. Donc, puis Diane, elle était un petit peu... c'est vraiment abasourdi.
Mais c'est
donc,
sûr, c'est sûr.
Pour elle de prendre ça en charge. C'était très long, il répondait pas, fallait parler avec des messages courriels. Personne nous a parlé de vive voix là, à aucun moment. Il rappelait plus tard, puis il savait pas, fallait envoyer. Nous, ça a coûté 8 000 $ environ. Là. Fallait envoyer de l'argent pour que on puisse commencer une procédure, mais on savait pas où envoyer l'argent. Donc, c'était vraiment là, chaotique. Là.
Et là, finalement, vous avez pu envoyer l'argent. 8 000 $, c'était pour oui. Deux choses. C'était incinérer pour, votre père et rapatrier les cendres.
Oui. Oui, puis ils nous ont chargé, là-bas, la morgue nous chargeait 60 $ par jour pour garder le corps. Donc, plus c'était long rapatrier le corps, plus la facture montait. Là. Ça nous a coûté 1 800 $ là, juste pour qu'ils le gardent dans les frigos à la Havane, dans une morgue.
Et finalement, les cendres de votre père sont arrivées quand à Montréal?
Elles sont arrivées, dans le fond, le 26 mars. Sont arrivés, mais 3 jours auparavant, on a eu un appel de l'aéroport disant que mon père était sur la route, sur le retour. Et puis là, ils nous ont parlé que c'était une Sophia qui allait chercher les cendres. Et là, nous, on connaît pas de Sophia. Donc, on a posé des questions. Et tout ça pour se rendre compte qu'il y avait eu un mélange de numéros, là, donc des numéros, les cendres, c'est identifié. Donc, c'était pas le bon numéro de cendre qu'elle avait envoyé au nom de mon père. Donc, on a eu un monsieur qui était décédé au Panama, qui avait mis un peu là, dans le voyage à la place de mon père. Puis, finalement, ils se sont retournés de côté et ça a pris un autre 3 jours là, avant qu'on ait les cendres. Les cendres que je dois mentionner, que c'est des cendres que moi, je trouve que ça ressemble à du gravier. Je trouve pas que ça ressemble à des vraies cendres. Donc, il faut croire que c'est lui, mais...
Vous n'êtes pas certaine, après tout ce que vous avez vécu avec votre famille, non. Vous vous dites, est-ce que ce sont vraiment les cendres de mon père, là?
Oui. Oui, moi, je doute. Parce que c'est... Je me suis dit, est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose le plus rapidement possible parce qu'il y avait peur qu'on appelle les médias ou quelque chose comme ça, là? Étant donné toute la saga là, de ça. Fait que oui, là, on a des cendres qui ne ressemblent pas à des cendres humaines, mais on a des cendres.
Puis ce qui est important, là, c'est que les appels que vous avez faits aux autorités canadiennes, là, vous êtes tombé dans des boîtes vocales, puis vous n'avez pas été capable de faire avancer le dossier, là.
Non, ça a été vraiment très long, là. Vraiment, vraiment très long. Puis c'est des gens là-bas à Cuba qui nous ont aidés, là, des touristes là, qui étaient là-bas, là, qui étaient des amis de mon père, qui avaient été là-bas, qui ont aidé là, ma belle-mère, parce que jamais, autant à l'hôtel là-bas, autant à l'aéroport, personne n'aidait.
Merci, Mme Trottier. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Bon courage à vous.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Jennifer Trottier, son père est décédé à Cuba le 27 février. Ça a pris un mois pour rapatrier les cendres. Puis dans un premier temps, c'est une erreur. C'était un monsieur qui était mort au Panama. Ah, imaginez-vous, là. Puis là, finalement, on trouve des cendres. Mais est-ce que vous leur faites confiance? Est-ce que vous les croyez? Puis encore là, on souligne l'incapacité chronique du gouvernement canadien à aider des citoyens qui sont en détresse dans certains pays, qui ont besoin d'un support. Le consulat n'a servi à rien. Et je reviens ce matin sur le cas qu'on vous a présenté, évidemment, hier matin, pour voir si des choses ont évolué. Donc, même scénario, un homme qui décède à Cuba, la famille paye pour rapatrier le corps. Quand le corps arrive, on s'aperçoit que c'est pas le monsieur qui est mort, mais un citoyen russe, beaucoup plus jeune. Aucune comparaison possible en termes de physique. Le consulat russe a rapatrier le corps. Et là, on cherche encore une fois le corps de cet homme. Est-ce qu'il est toujours à Cuba? Qu'est-ce qui s'est passé? Anas Francis est avec nous. C'est un ami de la famille. Bonjour, M. Francis.
Bonjour, M. Paul.
Alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau dans votre dossier?
Hier soir, on a eu une nouvelle de la maison funéraire que le corps russe, le transport du corps russe a été arrêté. Donc, il demeure toujours à Montréal, au salon funéraire.
OK.
Et pour des raisons inconnues. Et là, hier soir aussi, Service Canada ont informé Myriam qu'ils ont eu des nouvelles de Cuba que le corps de son père, dû à une erreur d'autopsie, que ça se peut que c'était échangé avec le Russe et finalement, son père était repatrié en Russie.
Attendez, je veux juste comprendre. Là, ça veut dire que le corps du père n'est plus à Cuba, mais serait en Russie?
C'est ça qu'ils l'ont informé. Elle a demandé un courriel formel. Elle est en attente de ce courriel formel-là pour l'avoir dans ses mains. Mais c'est la première communication également des affaires mondiales. Ils ont promis de l'appeler aujourd'hui pour lui mettre à jour.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec le bureau de la ministre, qui est la députée également de Saint-Laurent, Mme Joly?
Non. Puis, on a relancé plusieurs personnes qu'on connaît dans la communauté qui peuvent la contacter, mais aucune nouvelle. Mme Joly est en Italie, évidemment, pour une réunion avec le G7. Donc, ni son bureau nous a répondu, ni le gouvernement, mais hier soir, il y a eu un appel avec Myriam.
OK. En résumé, on pense que le père de Myriam est en Russie, puis on pense que le Russe qui est ici va être retourné, puis qu'il y a un mélange au moment des autopsies.
Oui.
En espérant que ça se règle. Merci beaucoup, M. Francis.
Merci beaucoup.
Au revoir. Anas Francis, donc, est un ami de la famille. Vous imaginez deux cas, là, en très peu de temps, de gens qui décèdent à Cuba, puis on le sait, c'est une destination favorisée par les Québécois. Mélange à l'autopsie, les corps qui partent vers les mauvais pays, et les gens payent pour ça. Mélange dans les centres, quelqu'un, Panama, puis là, c'est pas Panama, c'est Canada. Alors, ils sont mêlés dans leur flûte, et il faut leur faire confiance et de dire, ben, ce sont probablement les centres de mon père. Nous avons reçu un message d'Affaires mondiales Canada en disant que nous sommes au courant du décès d'un citoyen canadien. Nos pensées vont blablabla aux familles, etc. Les agents consulaires fournissent une assistance consulaire à la famille et sont en contact avec les autorités cubaines. Ça rentre dans la catégorie bullshit parce que la seule raison pour laquelle ils ont commencé à se réveiller, c'est que c'est devenu public et largement public dans l'ensemble des médias. Et évidemment, pour des raisons de confidentialité, pas d'informations supplémentaires. Je répète, à partir de beaucoup d'expériences, de témoignages, et pas juste dans le cas de décès, mais de façon générale, les services consulaires canadiens sont d'une médiocrité. Si vous êtes mal pris à l'étranger, ils sont pas vraiment là pour vous aider. Encore faut-il être capable d'avoir un contact avec eux. Faut-il avoir la possibilité de leur parler. Vous tombez sur des boîtes vocales. L'ambassade est fermée. Le consulat est fermé. Ça a été vrai pour ce qui est de la Pologne. C'est médiocre. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Puis faut croire que le Canada se contente de la médiocrité alors que des pays qui sont exemplaires. Puis j'en parle régulièrement avec mon ami Fabrice, qui a été témoin de plusieurs situations, puis on a eu des gens qui étaient en Pologne puis qui devaient attendre devant. C'est ridicule. C'est ridicule. Et le spin gouvernemental, c'est de nous dire qu'il n'y a pas de problème, que ça va bien. Ce n'est pas vrai. Là-dessus, le gouvernement ment quand il prétend qu'il y a des services de qualité offerts aux Canadiens qui sont en difficulté à l'étranger.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On a tous des perceptions, des impressions quand on entre dans un commerce à Montréal, puis on se dit, est-ce que il y a que moi qui me retrouve devant un accueil comme ça en anglais, le fameux bonjour hi qui peut être assez irritant. Cette fois, l'Office québécois de la langue française publie les résultats d'une étude sur la langue d'accueil dans les commerces de Montréal. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est que actuellement, 71% des commerces montréalais ont accueilli les clients en français. C'était 84% il y a plusieurs années, on remonte jusqu'en 2010. Il y a d'autres facteurs qu'il faut analyser puis qu'il faut décliner. On va regarder ça ce matin avec le ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Bonjour, M. Roberge.
Bonjour, M. Arcand.
Quand je regarde les chiffres qui ont été rendus publics par l'Office, là, c'est nettement une baisse importante là, de l'accueil première ligne, premier contact en français dans les commerces de Montréal. Si on peut dire ça.
Exactement. On a perdu à peu près 1% par année depuis 2010 parce que on faisait des, l'OQLF fait des comparatifs entre 2010-2023. 84% des on était accueillis en français à Montréal en 2010, puis en 2023, c'était 71%, donc une baisse de 13% en 13 ans. Vous avez raison de le mentionner, le fameux bonjour hi. L'accueil bilingue, lui, est en hausse de 8%, et l'accueil en anglais est en hausse de 5%. Donc, on voit qu'on passe du français à une espèce de bilinguisation un peu spéciale ou carrément à un accueil en anglais. Donc, c'est un recul qui est préoccupant.
Bon, quand je me fais accueillir comme ça, disons en anglais, et que je réponds en français, quel est le pourcentage de gens capables de me répondre et de me servir en français?
C'est là où c'est rassurant quand même, parce que à Montréal, il y a pratiquement 97% des commerçants qui sont capables de répondre aux gens après en français. Donc, on y va, là, on a une grosse augmentation. Il y a beaucoup d'endroits où, ce que je veux dire, c'est qu'on vous accueille en bilingue, bonjour, hi, ou en anglais, mais lorsque le francophone répond bonjour, j'aimerais être servi en français, mais là, il y a seulement 3% des commerces où on n'est pas capable de servir en français.
Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, bon, ben finalement, OK, l'accueil n'est pas en français, mais il y a toujours quelqu'un qui est capable de me servir en français, que 3% de gens incapables de servir la clientèle en français, c'est peut-être pas un si grand problème que ça. Première impression, premier réflexe, là.
Mais moi, je pense que c'est pas acceptable quand même. Écoutez, on est au Québec, Montréal, ville francophone, qui doit demeurer francophone, même s'il y a un recul. Puis, faut pas abandonner. La dernière chose dont on a besoin, c'est de la résignation. Donc, il faut être accueilli en français. Il faut passer le message qu'on veut être accueilli en français. Puis, il faut pas tolérer les reculs de l'accueil. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grande partie des endroits où on vous accueille en français qui sont capables, en anglais, qui sont capables de nous servir en français. Donc, justement, pourquoi pas nous accueillir en français? Et 3% des commerces où on ne peut pas être servi en français, moi, je trouve que c'est encore trop. Ça veut dire un commerce sur 33, grosso modo, quelque chose comme ça. C'est quand même particulier. Ça devrait être zéro. Ça n'a pas de sens qu'il y ait des endroits où, même sur demande, les gens lèvent les yeux au ciel puis nous disent qu'ils sont incapables de nous servir en français. La bonne réponse ici, c'est 0%.
Là. C'est OK, pas, mais comment vous vous assurez que la langue d'accueil soit, bon, le français, ou à tout le moins qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de servir la clientèle en français? Quels sont les outils que vous avez pour faire ça?
Mais juste un petit mot sur la méthodologie. Là. L'Office québécois de la langue française n'a pas ici fait une enquête de perception. Ils ont fait une enquête là avec des clients mystères. Donc, ce sont des inspecteurs, des employés de l'OQLF qui sont entrés dans les commerces. Donc, on n'est pas seulement dans la perception, on est vraiment dans la réalité.
Non, mais ce que je disais tantôt, c'est que la perception est confirmée par la réalité des faits, là,
oui,
des chiffres.
Tout à fait, tout à fait. Eh bien, moi, je pense que c'est une question de mobilisation citoyenne. Au gouvernement, là, on a augmenté les effectifs à l'Office québécois langue française pour faire plus d'inspections, puis pour traiter les plaintes beaucoup mieux qu'avant. Il y a une augmentation de 33% des plaintes à l'OQLF au cours de la dernière année. C'est énorme. Ce qu'on voit, ça veut dire que les Québécois ne tolèrent pas d'être accueillis dans une autre langue que le français ou d'être servis dans une autre langue que le français. Et l'Office a les ressources maintenant, grâce à notre gouvernement, pour traiter ces demandes-là, envoyer des inspecteurs. Puis moi, je dis, il faut que la mobilisation continue, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire, M. Arcand.
Non, mais quand on n'est pas satisfait.
On ne sauvera pas le français si les Québécois ne sont pas mobilisés pour sauver le
français. Non, mais quand on n'est pas satisfait du service qu'on reçoit, que ce soit au niveau linguistique ou carrément le service tout court, là, On a le droit de sortir d'un commerce. On n'est pas obligé, une fois qu'on a passé à la porte, de rester là.
Ben écoutez, c'est ce que je fais, puis c'est ce que j'invite les Québécois à faire. Je vous faites-vous entendre, faites-vous respecter. Et puis d'autres magasins qui peuvent vous accueillir en français, il y en a, on le voit là, quand même, 71% des commerces à Montréal vous accueillent en français. Mais je pense qu'il faut passer un message. Les commerçants sont là pour faire des affaires. Si le chiffre d'affaires baisse lorsque l'accueil n'est pas en français, ou pire, lorsque le service n'est pas en français, eh bien, ils vont s'ajuster.
Mais y a pas...
il faut avoir le courage de ses convictions, puis il faut magasiner là où on est servi en français.
OK, mais ça vient pas traduire une réalité, disons, en fait, que le visage de Montréal change, là. Dans le sens où, on le sait, il y a vieillissement de la population, donc moins de jeunes. On se retrouve avec une immigration forte, beaucoup de réfugiés à Montréal, beaucoup de gens qui parlent pas français, qui vont finir par l'apprendre ou que leurs enfants vont l'apprendre parce que ils vont se retrouver dans les écoles françaises. Moi, ce que je vois souvent, ce sont des gens qui peuvent me servir le bonjour hi ou l'anglais et donc ils sont allés à l'école de la loi 101 puis ils me parlent français puis il y a pas de problème. C'est pas le premier réflexe, mais ils ont la capacité de le faire. Est-ce que avec donc des gens qui quittent vers la banlieue, une immigration qui est forte, des immigrants qui tardent à se franciser pour toutes sortes de bonnes raisons parfois, là. J'essaie de voir comment on peut renverser cette vapeur-là.
Il y a beaucoup de choses à faire pour renverser la vapeur, puis il y a quand même des notes d'espoir parce qu'on a annoncé dans la dernière année deux changements importants pour l'immigration. Le plus important, c'est qu'on a annoncé que ça va s'appliquer très, très bientôt. On n'en voit pas les effets tout de suite, mais dorénavant, pour devenir un immigrant économique au Québec, c'est la majorité des permanents qui sont des immigrants économiques, bien, il faudra maîtriser le français avant d'être accueilli, avant d'être sélectionné, avant d'arriver à Montréal ou partout ailleurs. Donc, c'est sûr que ça va changer le visage de la ville. Ça va améliorer le maîtrise de la langue française. On va accueillir des gens qui parlent déjà français. On a aussi, pour la première fois, imposé des mesures de langue française pour le renouvellement des permis des temporaires. On ne contrôle pas tous les temporaires au Québec, mais pour ceux qu'on contrôle, on va exiger du français. Puis on négocie en ce moment avec Ottawa pour avoir la réciproque, pour avoir l'effet miroir avec Ottawa. Donc c'est quand même des gestes qui n'avaient jamais été posés avant et qui vont porter fruit dans les prochaines années. On le voit pas en ce moment, mais ça s'en vient.
OK. Mais il reste, puis ça, c'est pas dans les commerces, mais c'est dans la vie de tous les jours, des auditeurs qui témoignent des compagnies de livraison de repas. Le livreur parle anglais, puis des fois même pas. Et ça arrive souvent, des chauffeurs de taxi qui ont pas la connaissance du français, il y en a quand même quelques-uns, pour ne pas dire plusieurs. C'est pas juste le commerce, là, c'est l'activité économique. Disons, des jobs que pas beaucoup de gens veulent, qui sont des postes occupés par des réfugiés qui débarquent. Puis finalement, le français est pas au rendez-vous non plus, là.
Mais là, vous nous parlez en quelque sorte de notre capacité d'accueil. Parce que on a beau avoir créé Francisation Québec avec ma collègue là, à l'immigration, Christine Fréchette, il y a moins d'un an, on est en train de le déployer puis d'améliorer l'offre de cours. Reste que le nombre est trop élevé en ce moment. Il y a trop d'immigrants temporaires sur le territoire québécois, puis il y a beaucoup trop de demandeurs d'asile sur le territoire québécois. Puis c'est pour ça là, qu'on négocie très fort avec Ottawa, ma collègue Christine Fréchette et moi, pour ramener les chiffres à quelque chose qui respecte notre capacité d'accueil. Parce que ce que vous nous décrivez, ben, c'est l'effet direct d'un trop grand nombre de personnes qui arrivent en même temps sans parler le français.
Oui, mais il y a aussi une réalité quand même pour ces gens-là qui débarquent, qui est de dire « j'arrive dans un nouveau pays, j'ai besoin de travailler tant d'heures par semaine, parfois c'est 2 ou 3 emplois, puis j'ai échangé avec eux, là, puis c'est, je comprends qu'ils pourraient faire mieux puis plus vite, mais c'est pas de la mauvaise foi, ils ont pas le temps. Il y a une réalité de loyer, d'épicerie, puis le français, malheureusement, est pas au top des priorités. Ils vont finir par la... Moi, je me fie plus sur la deuxième vague, ces enfants-là qui vont aller à l'école française éventuellement, comme on voit l'effet de la loi 101 chez les jeunes adultes, puis même les plus vieux d'aujourd'hui.
Ben effectivement, c'est sûr que les gens qu'on appelle les enfants de la loi 101 ben, parlent le français. Ils sont scolarisés là, de la maternelle, même de la pré-maternelle jusqu'en secondaire 5 en français. C'est certain qu'eux parlent français. Mais il ne faut pas abandonner sur les nouveaux arrivants. Je veux dire, quelqu'un qui arrive à 25 ans, il va faire toute sa vie professionnelle, va passer toute sa retraite, magasiner dans des milliers de commerces. Tout ça en anglais, on a plus d'ambition que ça.
Non, je pense qu'ils finissent par les apprendre.
Mais on va continuer d'améliorer l'offre de cours, puis de mieux sélectionner les immigrants en amont. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, C'est extrêmement important. Évidemment que si on prend quelqu'un qui maîtrise déjà la langue, mais ça change tout.
OK. Je veux vous amener sur un autre point. Là, vous avez été à l'éducation. Vous êtes responsable de la langue française. Le Journal de Montréal nous parle d'école francophone où la vie pour plusieurs se passe en anglais. Donc, l'utilisation de l'anglais dans les salles de cours entre les jeunes dans une école francophone. Qu'est-ce que l'école peut faire? D'abord, étiez-vous au courant de ça?
J'avais déjà lu d'autres articles il y a quelques mois sur le même sujet. J'ai lu l'article dont vous parlez. Bon, évidemment, c'est dans la cour de mon collègue Bernard Drinville à l'éducation, mais vous avez raison de dire que ça me touche personnellement, d'abord comme enseignant, puis comme ministre de la langue française. Ça doit être extrêmement irritant pour les enseignants francophones dans une école francophone de voir que l'anglais est autant omniprésent dans les corridors. Mais je pense qu'il faut vraiment demander puis exiger des élèves qui s'expriment en français parce que dans les corridors, pas seulement pendant les cours de français, puis dans tous les cours, ils vont pas se franciser s'ils ne parlent français que dans le cours de français. Là. Donc, moi, je pense que c'est une situation qui est très difficile. C'est lourd à porter pour le personnel enseignant, mais en même temps, c'est nécessaire pour l'avenir du français au Québec.
OK. Merci, M. Roberge. Bonne journée.
Ben, merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde.
Jean-François Roberge est le ministre de la langue française. On va parler d'absentéisme dans les écoles. Ce matin, la presse publie des chiffres concernant, évidemment, les écoles publiques primaires, secondaires. Et ce sont des données de la première semaine d'avril qui montrent que 9,5% des élèves étaient absents. D'abord, est-ce que c'est un phénomène temporaire? Quand ils sont absents, pour quelles raisons? Il y a des absences, comme on dit, justifiées. Ça peut être pour des raisons de santé. Mais quand on regarde les témoignages, il y a beaucoup d'enfants ou d'ados qui ne fréquentent l'école que 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. Puis c'est comme s'il y a des parents autour qui ont abdiqué. Égide de Royer est avec nous. Monsieur Royer, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, est-ce que quand vous regardez le chiffre de 9,5%, ça vous inquiète? C'est plus qu'avant la pandémie? Comment on peut interpréter ça?
Bon, évidemment que ça... Bon. Que ça m'inquiète, c'est évidemment inquiétant. Une absence est une absence. Mais la tendance générale, parce qu'il faudra faire la distinction entre absence chronique et absence passagère, la tendance générale a été une augmentation légère des absences, là, indépendamment de la pandémie. C'est que les causes deviennent variables et ça peut jouer dépendamment du contexte et du milieu. Des jeunes s'absentent pour travailler, des jeunes s'absentent parce qu'ils sont victimes d'intimidation, des jeunes s'absentent parce que le contrôle ou l'encadrement parental n'est pas suffisant pour leur permettre ou les amener à aller à l'école. Ça devient très variable. Mais on peut constater de toute manière et dire que c'est préoccupant parce qu'il y a une relation avec la réussite scolaire.
Est-ce que l'école est équipée pour faire face à ça? Et là, je ne parle pas encore là, des élèves absents pour des raisons de santé. Bon, c'est normal. Mais des enfants qui ont peur d'aller à l'école. Beaucoup de parents témoignent de ça. Des enfants qui sont sortis de l'école parce qu'ils se désorganisent, il n'y a pas les ressources d'une école à l'autre. Et donc, on dit aux parents, le temps qu'on trouve quelqu'un, gardez votre enfant à la maison.
Oui. Écoutez, à ce temps-ci, à la même période l'an passé, 2023, je me souviens du chiffre, là, c'était frappant, on avait 2400 jeunes au Québec en bris de service. Là, ils ont été retournés à la maison. Et l'absentéisme partait de l'école, dans le sens que c'est l'école qui est retournée à la maison parce que les jeunes posaient des problèmes trop difficiles là, pour qu'on puisse les aider directement ou les encadrer à l'école. Donc, ça ramène toute la distinction entre est-ce que ça relève, est-ce que c'est davantage causé ou associé à la famille ou associé à l'école. Mais dans les cas associés à la famille, rappelez-vous ce qui s'est passé à Granby là, par rapport à la petite qui avait été absente pendant l'école pendant un bon bout de temps et qui en était décédée. Il y a une situation d'abus parental là-dedans. Ça a donné lieu même une commission d'enquête. Là,
avec Régine Laurent, oui.
Ben oui, mais ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, moi, ce que je dois m'attendre au niveau des pratiques exemplaires, là, c'est que j'ai une politique dans mon école qui fait qu'à toutes les fois que j'ai un jeune absent, je communique avec la famille. Et j'ai aussi une politique d'information auprès des parents concernant les voyages, les absences pour le hockey, etc., des choses habituelles. Mais d'un autre côté, j'ai aussi quelqu'un qui se lève le matin et en rentrant à l'école secondaire, se préoccupe de ceux qui sont carrément susceptibles d'être des absents chroniques, là. Et ça, ça implique une intervention individualisée, puis ça implique probablement souvent de sortir de l'école et d'aller voir le grand gars ou la grande fille de 14-15 ans qui a commencé à s'absenter. Et là, on peut découvrir toutes sortes de choses, allant de la phobie de l'école ou de la grande qui est anxieuse, en passant par le jeune qui a décidé de sacrer cela, lui, parce qu'il veut travailler, ou en passant même avec un jeune qui est en conflit ou qui est victime carrément d'intimidation à l'école. Sur le chronique, ça prend vraiment une intervention individualisée, puis par la suite, il se fait quasiment de mentorat puis d'accompagnement, et ça touche pas nécessairement un grand nombre d'élèves, ce type de ce groupe de jeunes-là, mais c'est nettement les plus à risque au niveau de la santé mentale puis au niveau de l'échec scolaire, surtout.
Mais surtout aussi, on ne sait pas ce qu'ils font de leur journée. Moi, j'ai des profs qui m'écrivent ce matin pour me dire qu'ils ont découvert que tel élève qui manquait, comme vous dites, de façon chronique, quand les parents finissent par se manifester, ben souvent, ce sont des parents qui ont abdiqué, qui se battent le matin, ils veulent pas aller à l'école, ben moi, je dois partir travailler, toi aussi, bon, ben il va passer la journée tout seul, puis il y a 14 ans. Je dis pas qu'il y en a des milliers, mais il y en a quand même un certain nombre de ces élèves-là.
C'est quasiment le principe du travailleur de rue, là. Si un jeune de 14-15 ans qui est en conflit avec sa famille ou qui veut rien savoir là, des interventions des parents pour aller à l'école, ça prend entre guillemets un étrange, là, quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui n'est pas lié, mais qui peut être basé carrément à l'école. L'intervenant social, ça peut être un éducateur spécialisé, psychologue, un personnel de l'école qui se préoccupe, qui le prend sous son aile, là, en disant « Mon garde, mon grand, qu'est-ce que ça te prendrait? Puis c'est quoi qu'on peut faire là pour te ramener à l'école? » Parce que on se retrouve dans un contexte où c'est, écoutez, incident disciplinaire, absentéisme, non, et retard scolaire, c'est les trois points. C'est trois des variables les plus importantes là, au niveau de la persévérance, de la réussite scolaire. Et dans certains cas, les parents font le possible, mais ils sont pas en mesure de... Écoutez, j'ai déjà vu des situations, moi, où la mère était seule avec deux enfants, puis avait des dents, mère très dépressive, là, la maison désorganisée. Donc, comment est-ce que j'aurais une politique là de téléphoner à la maison? Ça va prendre quelqu'un qui se rende à la maison pour être en mesure de donner un coup de main, là. Parce que on se ramasse avec des jeunes qui sont absents parce qu'ils remplacent quasiment leurs parents par rapport à certaines situations. Donc, ça devient sur le chronique, ça devient très, très varié. Certaines causes relèvent de l'école carrément au niveau de certaines politiques disciplinaires ou manque d'encadrement, mais d'autres fois, ça relève directement de la famille. Et quand c'est chronique, ça prend quelqu'un qui individuellement va intervenir.
Parfait. Merci beaucoup, M. Royer. Bonne journée.
Bonne journée.
Et Gide Royer, qui est psychologue et spécialiste en matière de réussite scolaire. C'est vrai que les données semblent porter autour du congé de Pâques. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ont pris cette période-là puis qui ont étiré puis qui... Ça peut jouer, c'est certain. Mais en même temps, pour le voir dans vos messages, des parents qui font face à des enfants qui ont peur, l'intimidation, là, c'est quand même pas rien, là. Donc, des enfants qui ont peur d'aller à l'école, des enfants qui sont pas intéressés par l'école, des enfants qui se désorganisent, qui deviennent un fardeau pour l'école qui a pas les ressources, puis qu'on dit aux parents, on donnait le chiffre de 2400 élèves qui étaient en bris de service parce que c'est l'école, cette fois-là, qui les a retournés à la maison. On a eu des cas ici à l'antenne il y a quelques semaines à peine. Mais en même temps, c'est un rappel de l'importance de valoriser l'éducation. Puis même si c'est difficile, il peut pas laisser un ado tout seul devant son écran puis s'amuser à jouer des jeux toute la journée parce que ça ne tente pas d'aller à l'école. Vous êtes nombreux, disons, à partager ça ce matin. Parlons maintenant des moyens de pression à la Société des alcools du Québec. On sait, ça a été annoncé hier, que le syndicat pourrait, demain et jeudi, faire deux journées de grève. Je dis bien pourrait, là, parce que l'intention est là. Ils veulent voir comment les négociations vont se passer aujourd'hui. Lisa Courtemanche est avec nous. C'est la présidente du syndicat. Madame Courtemanche, bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que demain, ça sera ou pas fermé dans les succursales, là, à part les succursales ouvertes? Est-ce que vous avez pris votre décision ou faut attendre jusqu'à la dernière minute?
Ben, en fait, on va laisser une chance à la négociation d'avoir lieu ce matin. Donc, ensuite, on verra comment les discussions vont se passer durant le courant de la journée, mais l'employeur est très au courant de ce que nous attendons comme retour de leur part aujourd'hui.
Est-ce que c'est vrai que cette semaine, il y a un gros événement au Palais des Congrès où on fait une planif, puis il y a 1000 personnes, puis que ben s'il y a une grève, il y a des gens qui vont devoir aller travailler en succursale. Autrement dit, il y a un effet là, pour perturber cette activité de l'employeur.
Mais effectivement, on essaye de de déranger l'employeur sans trop affecter nos clients en même temps. Fait que pour nous, cette activité-là de l'employeur, en fait, était un bon moment pour signifier que nous sommes sérieux dans nos demandes de réduire la précarité d'emploi dans nos rangs.
OK. Et ça, c'est une activité annuelle. Qu'est-ce qui se passe durant cette rencontre-là?
En fait, c'est la haute direction qui présente à tous les gestionnaires des succursales et de la Société d'État le plan, le lancement de l'année. En fait, ils appellent ça le lancement de l'année. C'est ce qui s'en vient dans les orientations de l'entreprise pour la prochaine année.
OK. C'est quoi le gros problème, là? Sur quoi ça achoppe le plus?
En fait, on cherche à réduire vraiment la précarité d'emploi. Chez nous, il y a 70 % des collègues sont des employés à temps partiel qui n'ont pas accès aux assurances, entre autres, et qui vivent en fait sur appel et qui ont de plus en plus de difficultés à combiner même un deuxième et un troisième emploi aujourd'hui.
OK, quand vous dites qu'ils travaillent sur appel, ça veut dire que moi, si je suis un employé comme ça à temps partiel, j'ai pas d'heure garantie.
Exactement.
On m'a expliqué une affaire, puis vous allez me dire si c'est vrai. Que quand on arrive au mois de décembre, qui est une grosse période pour la Société des alcools en termes de vente, là, les heures qui sont distribuées, ce sont les employés permanents qui déterminent si oui ou non ils veulent faire du temps supplémentaire, puis s'ils veulent accumuler le temps ou être payés, et qui pigent dans des heures qui pourraient être, disons, travaillées par des temps partiels. C'est vrai, ça?
En fait, il y a une période dans l'année... Ça, il faut qu'on recule longtemps d'avance. Quand il n'y avait pas d'employés à temps partiel à la Société des alcools, c'était uniquement les employés réguliers qui faisaient, en fait, les heures de travail.
Okay.
Toujours en temps supplémentaire. Un moment donné, dans les années 80, est arrivé les employés à temps partiel. Et à ce moment-là, ce qui avait été négocié pour qu'on ait une notion de collègues à temps partiel, c'était les réguliers de l'époque avaient dit, ben nous, on va céder notre droit d'être prioritaire sur toutes les heures qui se donnent. Par contre, on va se garder une priorité les 4 semaines de décembre.
OK, mais c'est ça que je veux comprendre. Ça veut dire, moi, je travaille à temps partiel, je pourrais faire des heures durant cette période-là, mais mon collègue temps plein, lui, va être payé en temps supplémentaire pour faire mes heures.
En fait,
c'est pas mal ça, oui.
Non, ben le problème, là, moi, ça fait 27 ans que je suis à la SAQ. Quand je suis rentrée, mon premier Noël, j'ai cumulé du temps supplémentaire comme employé qui n'avait que un mois et demi d'ancienneté. Et ça a été ça tout le temps, jusqu'à temps qu'on arrive en 2010, où est-ce que les heures travaillées ont diminué. Et là, il y a eu par la bande un peu moins d'heures travaillées par les temps partiels dans le temps des fêtes. Et depuis ce temps-là, ben, il y a une réduction des heures constamment qui fait en sorte que les collègues ont moins d'heures au mois de décembre.
Je vous dis pas que c'est pas vrai sur le fond. Je vous dis pas que c'est pas vrai sur le fond qu'il n'y a pas moins d'heures puis qu'on garantisse pas à des employés un minimum d'heures. Ben, d'accord avec vous. Je vous dis juste qu'il y a une petite parenthèse en décembre. Puis c'est vos membres qui me racontent ça, qui disent, ben moi, j'aurais fait des heures, mais mes collègues, eux autres, sont payés temps et demi. Donc, je perds des heures en décembre pour que j'aurais pu travailler.
Monsieur Arcand, le mois de décembre, on parle de 4 semaines sur une possibilité de 52 semaines. C'est pas ça qui va réduire la précarité des 70 % de mes collègues.
Absolument pas, mais ça donne des heures de plus à des temps partiels, par exemple.
Ben là, il faudrait que je fasse le coup que quand les réguliers font des heures en temps supplémentaire, on les accumule. Quand j'ai fait un dimanche à temps double de 8 heures de travail, je vais reprendre 16 heures de congé.
C'est quoi vos plans, votre plan de moyen de pression? Là, ça commence peut-être par des journées, bon, puis c'est quoi la gradation qui est prévue? C'est quoi le mandat que vous avez?
En fait, on a le mandat de réduire la précarité d'emploi, puis c'est cette semaine et dans les prochains jours que ça se passe. Fait que nous montons la pression. Tout est dans la balle est dans le camp de l'employeur. Ils le savent.
Non, ça, je suis très conscient. Mais moi, comme consommateur, je veux juste savoir, allez-vous aller fermer, là, ces 2 jours de moyens de pression? Y a-t-il une grève générale qui pointe à l'horizon? Est-ce qu'on va aller se promener en Ontario? C'est quoi le plan de match?
En fait, il n'y a pas de grève générale pour le moment qui a été votée.
Okay.
Nous avons 15 jours en banque de grève à effectuer au moment opportun. Ils peuvent ne pas être collés, ils peuvent être collés. En fait, on n'est pas sur une grève généralisée. Okay. Puis je vous rappelle que nous, là, on veut continuer de bien vous servir et on demande aussi plus de conseillers en vin. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas des conseillers en vin dans plus de la moitié des succursales de la SAQ?
Non.
Ben voilà.
L'autre question. Est-ce qu'il pourrait, comme on a vu la dernière fois, avoir des grèves déclenchées au dernier moment? Il est midi, c'est dimanche, puis on décide qu'on ferme les succursales.
Dans les 15 jours qu'on a en banque,
oui,
tout est possible.
Dont ça?
Dont ça. En fait, depuis cet automne, si vous vous rappelez, hein, qu'on fait des messages aux clients de faire leur petite réserve pour une journée ou deux.
Oui.
Ça arrive.
Peux-tu vous donner vous faire part d'une suggestion?
Oui.
Quand les clients sont à l'intérieur de la succursale puis le débrayage arrive tout d'un coup, là, moi, j'ai pas de trouble. Barrer les portes, laisser plus entrer de clients, ce sont vos droits puis c'est correct. Les clients qui sont à l'intérieur, ils peuvent-tu juste compléter la transaction avant de repartir? Pensez-vous que c'est possible de faire ça? Convaincu que vous auriez plus d'appui encore?
En fait, c'est pas mal ça qui se fait généralement un peu partout. Mais je peux pas être dans 411 succursales non plus.
Mais s'il y a un message fort de la présidente du syndicat, c'est sûr que le mot d'ordre va être suivi.
Exactement.
Madame Courtemanche, merci, bonne journée.
À vous aussi, au revoir.
Lisa Courtemanche est la présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec.
C'est 23.